Agriculteur, 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 agriculteur.
Voici Zoom avec cette semaine le monde paysan par le grand bout de la lorgnette pour élargir le champ de la réflexion et de l'action. Une émission réalisée et présentée par Martine Calcinotto sur Bram FM 98.3 au cœur de la Corrèze. La réalité du terrain, avec ses paysans toujours dans une adversité parfois assumée, mais toujours avec un bel enthousiasme, ils tracent leur sillon, cherchant inlassablement à donner sens à leur métier. Nous allons donc retrouver, dans cette deuxième partie du documentaire consacré au surendettement, Max, agriculteur à la retraite, mais aussi Marc Pion, auteur de la conférence gesticulée du tracteur à l'âne. Tous deux donneront leur avis sur une réflexion collective contre le surendettement. Voici donc dans un premier temps Marc Pion, que j'avais pu rencontrer, où il avait donné une conférence gesticulée.
Alors, bonsoir à tous, je m'appelle Marc Pion, je suis paysan. Alors, je vais vous parler des ânes, parce que j'aime bien les ânes.
Du tracteur à l'âne, avec des explications ludiques, techniques, c'était vraiment très très intéressant, et je convie donc les auditeurs à aller écouter la conférence sur Internet.
Ouais.
Hein, sur un site ?
Ouais, sur le blog du tracteur à l'âne, tout simplement. Il y a un onglet vidéo, on peut la voir. Alors, c'est pas la meilleure conférence que j'ai donnée, parce que j'ai été hyper stressé, mais vous aurez une bonne idée de ce que je dis. Ah, alors l'âne, bah, moi j'ai découvert l'âne. En fait, c'est la randonnée qui m'a fait découvrir l'âne. J'étais en pleine réflexion sur la décroissance et tout ça. J'étais déjà un grand randonneur, et puis j'ai lu plein de récits de voyages. De gens qui randonnaient, mais avec des ânes. Et je disais, c'est génial. On peut être en décroissance avec un âne. On lui met sur le dos une toile de tente, tout ce qu'il faut pour cuisiner. On part 8 jours et ça ne nous coûte rien du tout. On trouve toujours un endroit pour dormir, pour faire bouffer l'âne. Alors j'étais les rencontrer, parce que j'étais paysan, mais je ne connaissais pas du tout cet animal. J'ai suivi une formation dans le Lot, d'ailleurs tout près d'ici, à l'ânerie, ça s'appelle, pour découvrir les ânes. Puis l'âne, c'est un animal magique. En fait, il est très discriminé. On le traite de bête, etc., parce que c'est l'animal le plus intelligent. On n'aime pas trop que les individus qui se démarquent comme ça aient plus de pouvoir que nous, quoi. C'est un animal super intelligent. On dit que ça a l'intelligence d'un enfant de 5 à 7 ans. D'ailleurs, c'est curieux, parce qu'on donnait un bonnet d'âne aux enfants dans le temps pour qu'il y ait une partie de l'intelligence de l'âne qui descende dans la tête des enfants qui avaient des difficultés. Et ce n'est pas des blagues, hein. C'est Pétain qui en a fait une punition en 1940. Alors, c'est un animal super social, mais il a besoin des autres. On dit qu'un âne tout seul, il peut mourir de tristesse. Il a besoin des autres, mais bon, il n'est pas... Il accepte la compagnie d'un cheval. Bon, forcément, il préfère les ânes, mais d'un cheval, d'une chèvre, même de poules. Il y en a certains avec des poules. Il protège les poules, mais il faut qu'il soit avec du monde. Quoi. Voilà. Donc, par nature, il est pas raciste.
Oui, qu'est-ce qui vous a plu dans l'âne, justement, à part tout ça?
Ça, déjà, c'est formidable, en fait, de penser que cet animal qu'on stigmatise, en fait, est pas du tout celui-là, quoi. Et après, je pense que j'ai un peu d'amour à donner. Le fait qu'un animal ait besoin de ça et qu'il y ait cet échange-là est formidable.
Alors comment ça se passe quand on doit travailler avec l'âne ?
Après, de travailler avec, c'est d'une simplicité incroyable, en fait. Là, j'ai travaillé avec, par exemple, des ânes. J'ai des copains qui avaient des ânes, qui avaient 15 ans, qui n'avaient jamais travaillé. Et dans l'après-midi, on les mettait au travail. Alors il y en a qui étaient complètement scotchés. Alors ils pensaient que c'était moi qui avait un peu un pouvoir magique de l'homme qui savait parler aux ânes, mais pas du tout, en fait. À partir du moment où on lui fait confiance, qu'on est bien avec lui, qu'on sait le respecter, il est prêt à faire ce qu'on veut. Voilà. Alors, pas trop longtemps, mais il sait le faire, quoi.
Ouais, c'est ce côté rebelle, un petit peu. En
fait, oui, il sait mettre des limites. Il ne veut pas se mettre en danger. Voilà, il est prudent, il sait ne pas se mettre en danger. Et donc, il va refuser de faire trop longtemps, quoi. Ça va le mettre en danger. Donc, pourquoi aller... Et voilà. Mais ça, c'est hyper important, ouais.
Ouais. Alors, quand on écoute votre conférence et vous détaillez toute votre histoire, en fait, vous démontrez que le surendettement, c'est ce qui peut tuer le paysan, quoi.
Ouais, bah oui, ça c'est un.
Le surendettement, l'investissement, en fait.
Ouais. Bah, l'investissement va souvent avec le surendettement. C'est plus on investit, malheureusement, moins on a de fonds propres, plus on est obligé d'avoir recours à l'endettement aux banques. Oui, c'est un vrai mal, c'est vraiment un des maux de l'agriculture, hein, c'est que tout le système est fait pour que justement les paysans investissent et s'endettent et après sont complètement dépendants de ça, quoi. Mm-hmm. Donc ça, c'est un très lourd poids qui grève aussi le changement, quoi. Qui ne pousse pas à la réflexion sur le changement. Plus l'endettement est important, plus c'est compliqué de revenir en arrière, de moins produire, etc., quoi. On démontre un peu le contraire, mais pour le faire comprendre, c'est compliqué, quoi. Mmh. Voilà.
Agriculteur, agriculteur.
Chères auditrices et chers auditeurs, vous écoutez l'émission Zoom sur Bram FM 98.3 au cœur de la Corrèze.
L'investissement dans le matériel, l'investissement aussi dans les heures de travail. Mmh. Vous arrivez à démontrer qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on travaille plus qu'on gagne plus.
Ah bah oui, ça c'est sûr. Bah, ça c'est prouvé à tout moment. Malheureusement, quand on travaille beaucoup, on a le nez dans le guidon, comme on dit. Hein. Mais du coup, on n'a pas le temps de la réflexion sur ce qu'on fait, sur la critique qu'on peut amener au truc, etc. Donc du coup, les heures de travail sont beaucoup moins efficaces que si on passe du temps à la réflexion. Voilà. Mmh. Ça c'est sûr, hein. ça c'est prouvé à tout moment, il y a des études qui ont mis ça en évidence, que forcément plus on prend le temps de réfléchir et plus on est efficace. D'ailleurs, même aujourd'hui, certaines entreprises, surtout dans le domaine social et tout ça, mais mettent ça en évidence, c'est-à-dire que disent aux salariés, non, ça sert à rien que vous travaillez 50 heures par semaine, il suffit simplement d'avoir vraiment le temps de réflexion, plutôt collectif, parce que l'intelligence collective est hyper importante pour pouvoir faire amorcer des changements, parce que du coup, on voit ce qui se passe chez d'autres personnes qui sont différentes de nous. Et donc, du coup, on peut les envisager parce qu'on les voit fonctionner chez d'autres. Moi, je pense que c'est l'élément essentiel du changement, c'est la réflexion collective. On a vraiment fait notre changement de système de production en collectif, dans un CIVAM. Et puis plus je poursuis en fait mon expérience, même je dirais de relations sociales, etc. Pour que les choses changent, c'est pas un individu tout seul. Là aujourd'hui, on met beaucoup la pression sur personnaliser. C'est l'homme qui est responsable de son truc. Il est responsable de ses maladies, etc. En fait, c'est le système. Donc il faut qu'on réfléchisse collectivement pour démonter cet égoïsme, cet individualisme qui existe dans la société, quoi. Alors que de tout temps, l'homme, et je dirais même les espèces animales ou végétales, ont eu besoin des autres. Il y a un magnifique bouquin qui s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle », qui est fait par deux jeunes, Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, et qui mettent en évidence que, en fait, dans toutes les situations difficiles, c'est vrai, des végétaux, des animaux, il y a eu forcément l'altruisme. Et les hommes, par exemple, ont vécu pendant très 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 longtemps en précarité. Et face à cette précarité, le seul moyen pour qu'ils s'en tirent, c'était d'être en groupe. Et c'est ça ce qui les a sauvés. C'est ce qui les amène à leur perte, d'ailleurs. Parce que ce groupe est tellement important que maintenant, il n'y a plus de réflexion locale, etc. Mmh. Mais c'est hyper important. Et en fait, ça s'explique. Regardez le jeune bébé, en fait. Avant de pouvoir être autonome, il va falloir attendre 10 ans, 15 ans. Et donc, il a besoin des autres. Donc, ça, c'est inscrit dans ses gènes à tout moment. Et quand on est en précarité, on trouve toujours des solutions pour s'entraider. Contrairement à ce qu'on nous dit, par exemple, dans le cas de catastrophe, il n'y a jamais de gens qui volent ou de trucs comme ça. Au contraire, les gens, ils s'entraident. D'ailleurs, ça avait été super bien montré par l'ouragan Katrina aux États-Unis, là. Où il y avait des policiers qui avaient dit il y a des bagarres, il y a du pillage et tout ça. Et en fait, pas du tout. Les gens s'étaient auto-organisés, quelles que soient les conditions sociales, pour pouvoir vivre au phénomène. Et ça a été prouvé que c'était que du vent, des médias, etc. Quoi. Et c'est vrai dans tous les cas. Quoi. Après, par contre, si on arrive dans des catastrophes avec un état d'esprit hyper égoïste, ben, c'est pas sûr qu'on se mette tout de suite à être... coopératif et altruiste, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut faire la réflexion, parce que les catastrophes, on va les avoir, enfin malheureusement. Alors moi, je ne sais pas dire quand, etc. Mmh. Il faut qu'on s'y prépare, quoi. Alors je prends souvent l'exemple maintenant de Lubrizol en fait. Si on avait préparé tous les éléments au cas où cet incendie pouvait avoir lieu, eh bien on aurait été beaucoup plus efficace à protéger les populations, etc. Et, or là on ne l'a pas du tout envisagé. Mais là c'est pareil, la catastrophe planétaire ou l'effondrement, qu'appellent certains, eh bien il va arriver. Donc il faut qu'on s'y prépare. C'est pas pour ça qu'il faut être défaitiste en fait. C'est au contraire se préparer au pire pour pouvoir vivre le mieux possible ce pire, quoi. Et là, on n'est pas du tout prêt, en fait. Donc ça, ça m'inquiète. Quoi.
Des solutions, parce qu'il y en a des solutions, hein, parce que vous en amenez quand même dans votre conférence.
Oui.
Bon, on peut retrouver donc là, cette conférence, on peut la détailler, on peut la repasser, parce que je crois que c'est quand même assez intéressant, sur votre blog.
Voilà.
Chères auditrices et chers auditeurs, vous venez d'assister à la rencontre avec Marc Pion et sa conférence du tracteur à l'âne. Vous écoutez l'émission Zoom sur Bram FM, 98.3 au cœur de la Corrèze. En première partie de ce numéro consacré au surendettement, nous avions rencontré Max, président de l'association SOS Surendettement, en compagnie de Dominique, un agriculteur en difficulté.
Là, je vais peut-être dire une bêtise, mais il n'existerait pas, je ne sais pas moi, une association solidaire qui viendrait l'aider, mais l'aider en bras, quoi. Vous savez, quelques jeunes peut-être qui ont envie... non, ça n'existe pas, ça. Enfin, je ne sais pas, je pose la question.
Le problème, c'est que, bon, à une époque, moi, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de personnes sur l'exploitation. Il y avait le grand-père qui donnait encore un coup de main puisqu'il mourait sur l'exploitation. Il y avait la mamie qui faisait à manger tant que ses enfants étaient au travail et les petits-enfants aidés, etc., etc. En règle générale, 8 fois sur 10, il n'y a plus personne sur l'exploitation. Il y a une ou deux unités de travail. Déjà, la plupart du temps, l'épouse est partie. Donc, elle va travailler ailleurs ou elle ne va pas gagner des miracles, mais 1100, 1200, peut-être 1500 euros. Et comme on dit vulgairement, elle fait bouillir la marmite. Sinon, elle est toujours dépendante de l'exploitation qui n'a jamais d'argent. On le voit, nous, on parle avec des gens qui ont 300, 350 hectares, et j'ai dit, et alors, qu'est-ce qu'elle fait, ton épouse ? Les secrétaires à tel endroit, et ben, l'autre, ouais, bon, ben, elle n'est pas très jeune, bon, elle fait des ménages. Et j'ai dit, avec 350 hectares, ton épouse, elle fait des ménages. Et bien, t'as réussi, là. Là, t'as réussi. C'était la peine d'avoir 350 hectares pour envoyer ta femme qui a 55 ans faire des ménages. Mais c'est un échec cinglant, ça. C'est un échec cinglant de l'évolution de la société. Et de la politique qui a été menée. On vivait à 30 hectares avant.
Oui, ça, c'est quand il y avait les générations qui restaient. Je reviens sur ça, là. Il y a des jeunes agriculteurs comme ça, enfin, des jeunes futurs agriculteurs, qui recherchent des terres, qui sont à la recherche de terres. Je vois que vous grattez la tête. et qui pourraient éventuellement, peut-être, ben, je ne sais pas moi, venir aider comme ça, comme un stage, venir aider les agriculteurs qui sont un peu en perdition.
Il y a des copains qui sortent le dimanche et le week-end ici et là.
Vous croyez qu'ils sont tous comme ça? Il n'y en a pas quelques-uns quand même?
De l'un à l'autre, beaucoup quand même, beaucoup.
Oui, mais si, ils ont envie de devenir agriculteurs.
Oui.
Donc c'est quand même qu'ils ont un projet.
Qui est à côté, là, qui est vaillant comme tout. Hein. Je ne sais pas s'il ne va pas se fatiguer aussi, parce qu'il a toutes les peines du monde à sortir le week-end. Parce que une fois, il faut semer, l'autre fois, il faut récolter, l'autre fois, il faut labourer, l'autre fois, il faut faire ci, l'autre fois, il faut faire là. Et comme il y a une multitude de productions sur l'exploitation aussi, parce que sinon, il ne s'en sortirait pas, ben, il n'a pas beaucoup de temps de libre et il n'a surtout pas le temps d'aller aider les autres.
Hein. Non, mais les futurs, c'est-à-dire en stage, vous savez, les stagiaires, quoi. Parce que je sais qu'il y a des agriculteurs qui reçoivent des stagiaires pour leur montrer un petit peu le travail, ce que c'est le travail. Ça serait peut-être une opportunité pour justement aider pendant, je ne dis pas tout le temps, mais aider pendant un ou deux mois, pendant les coups de bourre.
Je n'ai pas d'exemple comme ça. Mon frère, il a pris des stagiaires, oui, que l'école d'agriculture lui a envoyé. Il a reçu des Hongrois pendant un mois. Et voilà, il y a des gens qui viennent de l'Est pour voir un petit peu comment ça se passe à l'Ouest, tout simplement. Et bon, ils donnent un coup de main, mais bon, après, ils s'en reviennent vite. Après, il y a le problème de la langue, évidemment, donc...
Alors je vais dire encore une autre bêtise. Vous devez pianoter de temps en temps sur Internet. Hein, voilà. Quand on veut aider quelqu'un, on fait des dons, des cagnottes, parce que ça serait peut-être intéressant aussi de faire des cagnottes dans ce sens-là.
Ben oui.
Bon, je sais, on ne va pas récupérer des millions et des millions, mais...
Après, ils font des journées à la Confédération, de temps en temps, ils font des journées comme ça. Et bon, il y a un paysan là qui s'est fait un tour de rein, donc ben, il ne pouvait plus soigner ses métiers là. Donc ils ont fait appel à des bénévoles qui, bon, mais un jour l'autre, sont allés pendant 15 jours l'aider à soigner ses bêtes. Et, oui, ça existe, oui, mais c'est très limité.
Mmh. C'est dommage.
C'est dommage. Je pense que là, c'est pas de mauvaise volonté, c'est que les gens ne peuvent plus, quoi. Les gens ne peuvent plus non plus. Tout le monde est déjà dépassé sur ces exploitations. On voit là, on est le lundi, le samedi il arrive et puis voilà, on n'a pas fait tout ce qu'on voulait faire, quoi. C'est comme ça, quoi.
Agriculteur, agriculteur.
Chères auditrices et chers auditeurs, vous écoutez l'émission Zoom sur Bram FM 98.3 au cœur de la Corrèze. Le surendettement des agriculteurs, pourquoi ? La situation financière difficile et le surendettement restent une réalité dans le monde agricole. Comme nous l'a expliqué Max, président de l'association SOS Surendettement Agriculture en difficulté, à l'origine de cette réalité, des prévisions de marché trop optimistes, des aléas climatiques, de santé, personnel et le suréquipement. Pour être plus concret, en chiffres, 193 000 euros d'endettement par exploitation en moyenne en France, avec des grosses différences selon les exploitations. Ensuite, il y a les incidents, comme par exemple le tracteur qui lâche, et là, il faut emprunter pour en acheter un autre. Comme également la guerre des prix. Pour aider les agriculteurs en difficulté, il existe diverses associations, comme aujourd'hui la rencontre avec Max, président de SOS Surendettement Agriculture en difficulté, qui essaie d'aider Dominique, agriculteur largement surendetté.
Tout ça, c'est un mécanisme qui a été bien programmé et les gens ne l'ont pas compris, mais certains l'ont compris. Les instances, ils savent le pourquoi du comment. Hein. Voilà. Et ceux qui veulent le faire aller là, qui continuent de le faire aller là, ils ont un objectif, ils le connaissent leur objectif. Hein. C'est d'éliminer toute cette petite cavalerie qui gêne hein, pour faire des grosses structures. Et à ce moment-là, après, on verra.
Alors Max, pour le département de Tarn-et-Garonne, comment ça se passe concrètement ?
Le département, il exporte tant de milliers de tonnes de pommes de pommier. À part que désolé, mais moi, quand on achète une pomme, il faut la choisir parce qu'on ne peut pas la bouffer, désolé. Hein. Non mais désolé, mais même pour des pommes comme ça, ils peuvent les envoyer en Hongrie où ils voudront, hein, parce que moi, je ne bouffe pas de ça. Non mais c'est malheureux, quoi. Non mais tout est comme ça, quoi. Voilà. Mais tout ça, dans le grand public, mais non, il ne faut pas le dire. Voilà. La dépêche du midi, j'en ai fait des articles, je ne fais plus des articles. Un article de fond, il ne passe pas. Il ne faut pas, surtout pas passer un article de fond. Non, non. Donc, si je mets que la voisine s'est faite enfler là par une chienne, là, qu'elle a perdu le pare-choc, ils vont le passer. Mais un article de fond, j'en fais plus. Non, parce que faire des articles, si on veut qu'ils soient corrects, c'est votre boulot, il faut qu'ils tiennent la route, il faut qu'ils reflètent la réalité, ici et là. Ah, mais ça, il ne faut pas en parler de ça. Ah, non, il ne faut pas en parler. Eh bien, il ne faut pas en parler. Il n'y a qu'à continuer comme ça. On verra bien. Ici, il n'y a plus. C'est fini. Ils sont tous partis. Et en face, il y a des gens qui sont venus d'Hollande parce que c'est pire encore là-bas. C'est encore pire là-haut.
On n'est pas les plus malheureux.
C'est encore pire là-haut. Alors, ils ont fichu le camp parce que c'est encore pire. Non, je ne sais pas, mais voilà. Donc, déjà, si la politique européenne était une véritable politique, on n'en serait pas là. Les importations, parce que initialement, c'est ça, les règles de l'Europe, c'est importer quand on n'en a pas entre les pays membres. C'est ça ce qu'ils disent, mais ils n'ont que faire de ça. Ils n'ont que faire. Et après. Le gros paysan, il ne dit pas qu'il est gros paysan, mais c'est un gros paysan, 400 hectares, on est chargé de nourrir la planète. Alors il y en a un chien, LJ, ton fils, qu'est-ce qu'il fait ? Oh, il ne va pas rester, bah, j'ai dit, combien tu as, 400 hectares ? Parce que bon, on travaille pour rien. Et j'ai dit, mais tu faisais pas partie de ceux qui voulaient nourrir la planète ? Tu ne veux plus nourrir la planète pour rien maintenant ? Vous savez très bien que c'est le but, c'est pas de nourrir la planète. Ceux qui n'ont pas à manger, c'est les aider à ce qu'ils se nourrissent eux-mêmes. Au lieu de se substituer à leur production, leur faire du café ou je ne sais quoi, au lieu des productions vivrières, tout le monde le sait, c'est pas important ça. Non mais c'est épouvantable, moi je peux plus le supporter. Je ne peux plus supporter une fumisterie pareille, où on met en avant ce qu'on veut. Il y a trois pèlerins qui sont bien placés, qui manifestent à Montauban, on va le passer sur réfertoire. Il va y avoir 2000 types à tel endroit, ça on les a pas vus. Alors voilà.
Agriculteur, 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 agriculteur.
C'est C'était l'émission Zoom avec cette semaine le monde paysan par le grand bout de la lorgnette pour élargir le champ de la réflexion et de l'action. Sur Bram FM, tous les mercredis à 9h30, les vendredis à 14h et bien sûr en podcast sur bramfm.com. À bientôt.